Déjà un saint dimanche, un grand des saintes semaines. Alors, je pensais aussi que dans le cheminement des béatitudes, on essaie de faire ressortir la convenance dans la manière dont elles s'enchaînent les unes les autres. Peut-être on pourrait dire que la béatitude, les deux dont nous avons parlé hier, ceux qui ont faim et soif de justice, on pourrait dire que c'est la béatitude du jeudi saint, d'une certaine satiété. Manger cette pâte. J'ai la soif même de Dieu. Soif. La soif de susciter en nous la foi. Soif que nous ayons soif de lui. Et puis, la béatitude de la miséricorde dont j'ai peu parlé hier, celle qui suit la sixième béatitude, c'est les cœurs purs. Eux, les cœurs purs, ils verront Dieu. Et peut-être qu'on pourrait dire, vous savez, dans éclairer tout cela, quelque part tout se tient, et pour donner des éclairages, que c'est la béatitude du samedi saint. Vu que le samedi saint, c'est un jour où on ne célèbre pas l'Eucharistie. C'est le seul jour de l'année où il n'y a pas d'Eucharistie. L'Église est dans... Elle veille, et elle veille avec celle qui était debout auprès de la croix. C'est le cœur immaculé de Marie, l'Immaculée Conception. Puis la septième béatitude, je voudrais les artisans de paix, c'est celle du jour de Pâques. Premier mot du ressuscité, puis la paix. Alors, donc, cette méditation, sixième béatitude, qui est dans le cheminement, vous voyez, qui quitte tout à cause de « parce que tu aimes », c'est la première, donc on devient pauvre, riche. « Reviens à ton premier amour », c'est la deuxième béatitude, la douceur d'aimer et d'être aimé, le retour en Galilée. Puis, on rencontre dans le grand parcours de l'amour, des épreuves. Épreuves nous font pauvres, et que, au fond, c'est un pauvre public. C'est les larmes de Pierre après. Les larmes qui suscitent le grand désir, dont on a parlé hier, avec la nuit, autant qu'ils en voulurent. Donc, elle est on parlait de la dimension de Dieu, du Dieu de notre foi. Et c'est l'Église qui apprend nous transmet son audace de demander l'impossible, parce que c'est ça qui honore Dieu, part de Dieu et le salut du monde, rien moins que cela. Puis, nous devenons ainsi des hommes de miséricorde. J'aime penser qu'on ne peut pas être un bon samaritain tant qu'on n'a pas expérimenté qu'on était riche. Donc il vient de haut, pas que ce n'est pas le pardon de Dieu, c'est la folie de l'amour. Puis donc on arrive à la sixième, acquiert un cœur pur. Alors, je vais dire de cette je voudrais la commenter en parlant de la chasteté. Je pense que la chasteté, ça vaut pour tout le monde. En ce sens-là, ça se distingue du célibat. On parle couramment du vœu de chasteté, mais en fait, nous faisons vœu de célibat. C'est ça, c'est le célibat pour le royaume. Tout que ça inclut la chasteté, mais la chasteté, elle est pour tout le monde qu'on pourrait. Et je voudrais parler donc de la pureté dans ce. Et pour ça, je vous partirai d'une histoire que j'ai vécue. Ça m'a un peu marqué. Je trouve que j'ai reçu un coup de fil du journal local qui s'appelle Le Bien. Et puis qui me disait, alors c'était la fin d'une année où on parlait beaucoup de la morosité de notre société. Peut-être encore en parler aujourd'hui aussi. Mais en tout cas, voilà. Et le journal voulait interroger non pas des politiques, mais des gens qui avaient des responsabilités diverses. Donc j'ai reçu un coup de fil et il me demandait si j'accepterais de répondre à cette enquête, etc. Comment on voyait la morosité. Alors, je me souviens, quand j'ai reçu le coup de fil, j'ai dit, écoutez, j'aimerais... Et il travaille avec ses frères, donc j'aimerais prendre le conseil de mes frères avant de vous donner ma réponse. Et donc j'ai pris le conseil de mes frères, j'ai dit oui. Et puis on a parlé, et il y a eu une vingtaine de personnes qui parlaient. Et tous les jours, il y avait moi je croyais que ça s'arrêtait là, mais en fait ça s'arrêtait pas là, parce que après ça ils m'ont rappelé, ils m'ont demandé si ils organisaient un forum avec tous les intervenants à Dijon. Ils me demandaient si j'accepterais d'animer un forum. Bon, j'irais, mais je préférais par prendre part, mais pas pour animer. Je sais pas. Donc j'y suis allé, et c'était tout à fait intéressant. Alors, chacun donnait son prix à avoir dit, mais je l'ai dit, donc quelque part, c'était prémédité. Et j'ai dit, écoutez, moi je pense que finalement, l'avenir est à la chasteté. Ça a déclenché un tollé, mais je m'en doutais, donc je m'étais préparé à ça. Alors j'ai dit, écoutez, laissez-moi parler, laissez-moi m'expliquer. Et donc très gentiment, ça n'a pas été. Ce que je pense, c'est qu'au fond, notre société de société de consommation, hein, il s'agit finalement de ne pas se laisser, d'abord de soi-même, de ne pas entrer dans cette espèce de et de ne pas se laisser non plus consommer, pour prendre un mot vulgaire, de ne pas se laisser bouffer, quoi, par ce, ni de bouffer. Tout le monde s'est apaisé. Je crois que la chasteté, c'est finalement la chasteté au sens profond du terme. Et le sens, c'est vraiment de développer une relation de respect profond. C'est ça, la chasteté. Et que l'autre, j'ai le devoir de le respecter comme moi-même, qu'il me respecte aussi. Ça vaut non seulement pour l'autre, pour les autres, mais ça vaut pour les choses que l'on a. Regardez, quand on pense à l'évangile du mercredi des cendres, premier évangile du carême, ça exactement, en fait, ce que c'est que la chasteté. Et dans la chasteté, dans la relation à Dieu, dans la relation à soi, et dans la relation, c'est un peu après les béatitudes, ne cherchez pas à vous faire remarquer. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Voilà. Te faire remarquer. Sinon, vous avez déjà votre récompense. Quand tu pries, ne entre dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui voit dans le secret. Quand tu jeûnes, eh bien, parfume-toi la tête. Voyez, toujours le secret, chercher à se faire remarquer, etc. Tout ça, c'est la pudeur, la chasteté, la pureté du cœur, tout ça, c'est très très proche. On pourrait dire que la chasteté, c'est une juste relation à soi, une juste relation à Dieu, et une juste relation aux autres et aux choses. La prière, il s'agit de donner tout son poids à Dieu dans ma vie, par rapport à moi-même, de ne pas être encombré de moi. Ce qui nous rend triste, ce qui empêche qu'on soit vraiment dit, c'est on est encombré de soi-même, de vieil homme. Et puis, développer une relation large avec les autres, de donner du temps, de gratuit. Dans les services que j'ai rendus, tu sais que j'ai été cuisinier par l'ANCA, mais j'ai été aussi hôtelier, pas longtemps du tout. J'aimais beaucoup ce service à l'hôtellerie. Alors, j'ai gardé une lettre, en fait, j'ai gardé une lettre d'une femme que. Et je voudrais vous lire ce qu'elle m'écrit qui concerne cela. Elle que j'avais dû parler. Vous avez parlé de la pureté du cœur, cette belle chasteté si méconnue. Un mot que j'aime tant, à cause de la belle réalité qu'il nomme, et qui pour moi déborde sur toutes les autres. Mot actuellement banni du vocabulaire, force de contresens. Réalité que l'on est cependant conduit à exprimer tôt ou tard, et à exprimer avec quelle contorsion de langage. Car si l'on prononce ce mot, autant des contraceptifs et autres préservatifs vivement recommandés, si ce n'est obligatoire, les oreilles se ferment. Et pourtant, la relation interpersonnelle ne peut être vécue en plénitude et jusqu'à ses confins que dans la chasteté. Sinon, forcément, il vient un moment où l'un ou l'autre oppose des barrières, des refus, des fuites, pour préserver son identité menacée d'envahissement ou d'absorption ou d'altération. Nous ne pouvons rencontrer l'autre, tout autre quel qu'il soit, intimement, qu'au prix de cette bienheureuse chasteté. En disant, il me vient à l'esprit encore que la chasteté préside également à une saine relation à soi-même. Il y a une manière de se considérer, de concevoir sa propre vie, son corps, son esprit, son cœur, consciemment ou non, qui peut être chaste ou ne pas l'être. Une manière de se posséder soi-même pour la jouissance, bonne ou mauvaise, qui nous prend la tête. Ou bien, une manière de se recevoir comme un don de Dieu fait à la vie, avec un grand V, de s'attendre comme un hôte, de se hâter comme un pèlerin ou de se patienter dans ses insuffisances comme un qui sait que sa fin ne dépend pas seulement de ses moyens. Ce serait comme une enfance permanente. Je crois surtout que c'est très juste. Prendre en patience soi-même. S'aimer soi-même, en fait, c'est fondamental. Si on ne s'aime pas soi-même, de manière juste, on ne pourra pas aimer les autres. Aimer son prochain comme soi-même. C'est parce qu'on se reçoit, un peu comme on disait au départ dans notre première voix, comme un don de Dieu. Ultimement, je me reçois de toi, au-delà de tout ce que je peux d'ailleurs imaginer ou sentir. Je ne peux que m'aimer. Et de s'aimer comme on est, ça, c'est pas commode. C'est pas forcément commode. Il m'arrive de rencontrer des gens qui disent « je ne m'aime pas ». Dieu t'aime comme tu es, alors aime-toi comme tu es. Et il faut reconnaître que, vous voyez, ce respect que nous nous devons, un respect qui va jusqu'à s'honorer, ça va honorer les uns les autres, mais se rendre honneur. La parole de Dieu, ça se trouve dans le livre de Ben Sira, à un petit verset qui dit « Toutes choses vont deux par deux, chacune souligne l'excellence de l'autre. L'homme et la femme, le père et le fils, le jour et la nuit. » On va s'amuser comme un jeu, mais... Et chacune souligne l'excellence de l'autre. Ce qui fait que c'est possible, ça, c'est le don de l'Esprit Saint. Un don. Hier, je parlais que le Père et le Fils dans la cesse de se donner. La saisissent. C'est là que le Seigneur veut en venir avec nous. Et nous embrasser lui-même dans son Esprit Saint. Dans ce que les Pères appellent la péricorèse, cette danse de la Trinité. Don d'amour, on pourrait dire. Alors, on a quelques grands exemples de... Ça, deux, bon, ben, on pourra en trouver beaucoup d'ailleurs. Moi, en tout cas, c'est un grand modèle. C'est qu'au fond, il est l'agneau de Dieu, un disciple, et il laisse partir ses disciples. Ça, la chasteté, c'est de ne pas se crisper pour retenir à moi. Non, Jean, c'est lui qui va dire il faut qu'il grandisse et que je diminue. Mais regardez là. La relation de Jésus et Jean, et qui demande à Jean de le baptiser, et Jean qui lui dit « mais je suis pas digne de délier la cour ». Et Jésus, c'est ainsi que doit s'accomplir toute juste, si on extraordinaire. Très chaste époux de la Vierge Marie, il a eu la vie complètement bouleversée dans les desseins de Dieu. Chef de la Sainte Famille, tel serviteur. Puis, bien sûr, la Vierge Marie. Quand, dans les litanies de la Vierge Marie, il y a lèbre, sa pureté, avoir lu, c'était dans Père Voyaume. Chez la retraite au Vatican, et qui disait, j'avais lu ses en parlant, qu'au fond, elle n'a découvert qu'elle était l'Immaculée Conception. Aucun repli sur elle-même. Elle est la, comme disent les pères, Sancta Simplicitas, la sainte simplicité. Aucune duplicité, il n'y a pas de pli. Les litanies disent, Mater Castissima, Mère très chaste. Mater Purissima, Mère très pure. Mater Inviolata, sans tache. Mater Intemerata. Sancta Virgo Virginum. Et elle nous éduque à cela. Tous les monastères cisterciens sont construits dès le départ. Chez elle, quelque part. Alors elle est la reine du ciel et de la terre, donc elle est partout chez elle, d'une certaine manière. Mais il y a comme des lieux qui lui sont particulièrement consacrés. Ce que vous voyez là, c'est une reproduction de la Bible d'Étienne Harding. Étienne Harding, qui est l'abbé de Cîteaux, qui a reçu Saint Bernard. La Bible d'Étienne Harding est un lieu un peu byzantine. Ah, je suis sûr que vous avez une petite statuette ou quelque chose de Sainte Mère de Dieu et notre vie. Comment elle s'adresse à Bernadette? Elle lui dit, voulez-vous me faire là? Jamais Bernadette n'avait dû être, vous voyez. Du cachot. Donc, commencer à se parler comme ça. Mais ça serait pas non seulement la politesse, mais Marie honore. Honore Bernadette, voulez-vous me faire la grâce? C'est pas Bernadette qui dit ça à Marie, c'est Marie qui dit ça à Bernadette. Et toutes les apparitions de Marie sont toutes, on pourrait dire, délicatesse. Et toujours, vous voyez, on n'est pas dans la consommation, on est dans la communion. On suppose la chasteté, plutôt. Alors Marie, elle a sérieusement éprouvé. Hein. Voilà. Aucune n'a été plus éprouvée. Elle est l'immersion, mais... dans la foi, jusqu'à la croix. Et elle est debout près de la croix. Moi, j'aime pas beaucoup les représentations. C'est pas ce que dit l'Évangile. Elle est debout dans la foi. Elle a laissé partir. Donc, nous avons eu un frère qui était sculpteur. C'était des petites choses en bois. Mais c'était... On peut discuter sur l'art qu'il y avait dans sa sculpture. Mais en tout cas, c'était très profond. Toujours très, très profond. Et une fois... Il est juteux, puis vraiment, c'était pas... Mais le message était extraordinaire. Il y avait la croix, côté de la croix, et de l'autre côté, j'ai jamais vu ça nulle part. Et alors, la clé de compréhension, c'est qu'il avait écrit en bas, il écrivait souvent une petite parole pour éclairer la petite, ce qu'il voulait. Il avait écrit « Femme ». Ça m'a éclairé sur tout l'évangile de Saint Jean. C'est la parole que Jésus dit à sa mère, aux noces doit représenter la croix. C'est à la fois la croix douloureuse, mais c'est la croix glorieuse. Celle, l'arbre de vie, qui relie le ciel et la terre, qui relie l'Orient à l'Occident, qui embrasse tout. Elle est l'arbre de vie. Et l'arc-en-ciel, qui se déploie. La croix qu'on va vénérer le Vendredi Saint, c'est la croix glorieuse. On ose chanter le Vendredi Saint, et ta sainte résurrection, nous la chantons. Voici en effet que la joie est entrée dans le monde entier. C'est ce qu'on chante le Vendredi Saint, en étant à genoux. C'est là que l'Église nous apprend à prier. Vous savez. C'est pas larmoyant, la liturgie, c'est jamais larmoyant. C'est la vision de la foi. Non, là on est, voilà. Et par la croix, il opère le salut du monde. La passion se met en place. C'est la croix de l'alliance nouvelle et éternelle. Alors, tout ça, ça va loin. Et en même temps, je vous donne des exemples qui ne sont pas cette fois dans la parole de Dieu, mais où je trouve qu'aussi on a de beaux exemples de ce qu'est la chasteté. Dans des films que vous avez peut-être vus, vous savez, je vais jamais au cinéma. Quelquefois, on nous passe un film, c'est très très rare. Mais je me souviens de deux films, un que, oui, je les avais vus tous les deux avant de rentrer à Cîteaux. Et je me dis, c'est vraiment là, on a des exemples, ce qu'est la chasteté. Un film qui s'appelle Le Festin de Babette. Là, Babette, si vous ne l'avez pas vu, demandez à voir ce film. C'est extraordinaire, très grand film. Babette est vraiment un symbole de ce que la chasteté. D'une certaine manière, une figure de Marie. Elle transforme son milieu où tout le monde se dispute. C'est épouvantable ce milieu où elle est. Elle transforme son milieu, vous verrez comment, mais elle est toujours en retrait. Sa joie, c'est de voir. L'esprit, il est pour ça. Comme l'atmosphère. Et tout le monde, petit à petit, tout change. Et tout se réconcilie. Tout ça. Un autre film qui est dans le même genre, c'est finalement, le thème est le même, mais c'est un tout autre contexte, c'est La Mélodie du Bonheur. Est-ce que c'est aussi. Donc c'est pareil, là encore. Donc on voit comment cette jeune fille qui voulait rentrer chez les bénédictines, et puis finalement, elle comprend, elle devient préceptrice d'un chien, qui est veuf et qui fait marcher ses enfants. C'est une véritable caserne chez lui. Il est fait au garde-à-vous, etc. Et quand elle arrive, elle détend toute l'atmosphère. Au lieu d'être extrêmement tendue et pas. Au fond, c'est toujours la même thématique. Et au fond, ce sont les figures de la Vierge Marie. Pleine de grâce, elle vient changer nos atmosphères lourdes. Voilà, où on n'est pas bien, elle vient mettre sa grâce, la plénitude de sa grâce. Elle nous éduque dans cela. Que les tâches de parents, c'est d'élever les enfants dans ce sens-là. Là, c'est aussi la même. Ces bazars-là, avoir une relation chaste avec Internet, c'est pas même quand on est moine, je vous assure. Pas commode. Alors nous, on coupe tout accès à Internet de 8h du soir à 8h du matin. Non, on fait ça quand on a commencé. Nous, parce que ça transforme complètement la relation à la clôture. On n'a plus besoin de sortir, non. Il suffit de cliquer au bon endroit. Et puis, voilà. Tu vas te dire. Donc, comment éduquer à la chasteté? Plein d'autres exemples. Même dans. Je pense qu'on peut être dans un monastère pas chaste du tout avec son travail. On peut se noyer dans son travail. Pas pour mal faire, mais pour bien faire. Parce qu'au fond, il y a un petit peu une pointe d'orgueil et d'amour propre. C'est pour ça que quand saint Benoît dit « Quand la cloche sonne, laisse et va rejoindre tes frères pour la louange. » C'est pas commode, vous savez. Venir avec cette béatitude sur la chassite, simplement, parole d'un poète, parce que je trouve que, pour chanter, c'est un poète allemand qui s'appelle Hölderlin. Et donc, c'est à lui qu'on attribue cette parole. « Dieu crée. Bon, » Non, il laisse comme la mer, il se retire pour qu'apparaisse la terre. Quand des enfants sont trop couvés par leurs parents, ils ne peuvent pas devenir eux-mêmes. Il faut que les enfants puissent prendre, il faut que les parents laissent prendre des risques. C'est comme ça que l'enfant va devenir adulte, même si de temps en temps il va se casser la figure, mais il faut être là en même temps. Eh bien Dieu, quel risque il a pris. Il savait bien que ça n'allait pas. Parce que ce qu'il veut nous faire baptiser est tellement grand que divinisation. Vous voyez, mais Jésus lui-même a se retiré. Il vous est bon que je m'en aille pour que vienne l'Esprit s'effacer.
devant
les. Et on passe à la septième. Ça mène au, à la paix. Heureux les artisans de paix. Semble Saint Jean, 1, verset 19. Le soir du premier jour de la semaine, c'est bien dimanche, la porte étant close, là où se trouvaient les disciples, il se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Dieu, le Saint, il a, Dieu n'oublie pas tout ce qui s'est passé. Même nous-mêmes, quand nous parlons du fond du cœur, le pardonner, c'est pas oublier. Aimer encore au-delà. Faire contribuer le mal qu'on nous a fait à un plus grand bien, d'une certaine manière. Ces plaies, ils sont des plaies glorieuses. Ayant dit cela, la paix soit avec vous, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie. Et il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De nouveau, pas seulement avec toi, mais comme le Père m'a envoyé. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront remis. Donc, la paix soit avec vous, mais c'est lui, bien sûr. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Et la paix annoncée à Noël, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, elle est réalisée une fois pour toutes. Il est arrivé à son heure ultime où tout ce que lui demandait le Père, il l'a accompli. Le Père l'a ressuscité des morts et nous saisit tous dans ce mouvement. Et ce Seigneur, ce Prince de la paix, vient nous rejoindre là, dans nos fractures, nos blessures personnelles, familiales, communautaires, professionnelles, nationales, internationales. Bien, on ne peut pas ne pas aimer son pays, c'est France. Entier est en souffrance. La création crie dans les douleurs de l'enfantement, dit saint Paul, et ça sera vrai jusqu'à la fin. C'est là que le ressuscité vient nous rejoindre. Mettre les onguents de l'esprit, le bon samaritain qui sur nos plaies vient, les pauvres humanités, il vient mettre de l'huile et du vin, dit saint Luc, hein, onction pour adoucir tout cela. La mort de Jean-Paul II, de nouveau j'ai été contacté par le jour, comment je voyais Jean-Paul II. Et l'idée qui m'est venue, c'est qu'au fond, il me semble que l'Église, à la fin du pontificat, elle était plus fragile, plus crédible. On n'est plus dans une Église qui a pignon sur rue, mais elle. Sans cela, si peut-être plus vite, ça continue de l'être. Au fond, elle n'a jamais fini de suivre Jésus. Il n'empêche qu'elle est toujours aussi assurée parce qu'elle est dans l'humilité de son Seigneur. Prince de la paix qui vient nous rejoindre dans nos lieux de fracture, frères et sœurs, chrétiens persécutés, de sanguis martyros, semen christianorum, le sang des martyrs est une seule. Pas les élections, mais si, c'est le dernier livre, rien, au ciel nouveau, une terre nouvelle, les ciels et la première terre ont disparu, de mer il n'y en a plus, je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, descendre du ciel de chez Dieu, elle s'est faite belle. Comme une jeune mariée parée pour son époux. Transcendantal, on pourrait un mot un peu. Lisez là dans l'Apocalypse, c'est plus la vérité, plus la bonté, mais c'est l'eschatologie. À la fin, le bien et le vrai se déploient dans la splendeur. C'est plus seulement l'éthique, plus seulement la logique, c'est l'esthétique. Bien attester que c'est vrai, que c'est bon, c'est fait belle. Et alors, j'entendis une voix clamer, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront sauvés. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors, celui qui siège sur le trône déclara, voici, je fais l'univers nouveau. Les sont certaines et vraies, c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, commencement et soif, moi je lui donnerai de la source de vie. Elle sera la part du vainqueur, je serai son Dieu et lui sera mon fils. Ça, c'est déjà pour aujourd'hui. Alors ça sera complètement, ça l'est déjà. Et je pense que c'est la tâche des communautés chrétiennes de manifester cela. On le peut, dans, humblement, mais en même temps, vraiment, tout est neuf. Nouveau, terre nouvelle, hein, homme nouveau, le nouvel Adam, Et l'Église, elle est, vous savez, on dit ça. Née du côté d'Adam, du cœur transpercé, d'où coule l'eau et le sang qui sont les figures du baptême. Et nous célébrons quoi dans toutes nos liturgies? L'alliance nouvelle et éternelle. Nous sommes dans un monastère, ça doit être un peu un signe de la nouvelle Jérusalem. Et on doit y pouvoir y respirer un peu de tout ce dont on parle. Ces parfums des béatitudes du monde nouveau, ils sont là. Et dans ce monde nouveau, annoncé par le prophète, les prophètes aussi, et qui est accompli par le Seigneur Jésus, tous unis et tout entre en communion. Je vais vous lire une page du prophète Isaïe qu'on entend à Noël. Dans le livre de l'Emmanuel d'Isaïe, il y a ces paroles qui font un peu rêver. Mais voilà, il faut les entendre. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera près du chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte. Car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur. Comme les eaux couvrent le fond de la mer. Mais c'est, voilà. Le Christ nous conduit là et il nous y met déjà par notre. C'est ça qu'on a à vivre. Il nous a dit que quelque part la vache, l'ours, la panthère, la colombe, et tout ça, c'est dans ma communauté ici. Il y a une panthère, un loup, un agneau. On peut trouver tout ce monde-là, je vous assure. Et à faire ça. Mais toutes ces créatures sont des créatures du bon Dieu. Il y a eu, un livre qui s'appelle, je crois, La prière des animaux dans l'arche. C'est magnifique. C'est de Carmen Bernols de Gastold. Elle a imaginé une prière pour tous les animaux. La prière du loup, la prière de la fourmi, la prière pour vos enfants, vos petits-enfants. Je vous recommande beaucoup. C'est merveilleux. Et elle montre que tous les animaux, c'est toutes des créatures du bon Dieu qui chacune prient. C'est pour ça que dans les psaumes, le conseil de toute la création qui chante la Dieu. Là, se donne la main. Et se reconnaît, et chacune souligne l'excellence de l'autre. C'est ça qu'on a à vivre. Il faut y tendre. Le monde de la paix, du prince de la paix, où tout est remis dans l'ordre. Alors cette paix, Jésus a dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mais pourquoi? Parce que c'est la paix des béatitudes, c'est tout ce chemin-là. Ça commence par quoi? Par là. Ça commence comme ça. Tant qu'il n'y aura pas ça, ben on fera des armes pour se tuer. Tant qu'on n'entrera pas personne à personne, dans les familles, dans l'Église, dans le monde, de nation à nation, dans ce mouvement de solidarité profonde où tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi. On fera des armes. Il y a de Christian de Chergé, vous savez, nos frères. Désarme-les, désarme-moi. Et dans la recension que je n'ai pas lue, je me suis contenté de la recension. La violence, une fatalité. Et l'auteur s'appelle Jean-Marie Muller, Gate Brewer en 1995. Donc dans la critique, elle m'avait intéressé, mais j'ai pas lu le livre. Et il parle là de la bonté. Il dit, la bonté, c'est l'auteur qui dit ça, consiste à se poser dans l'être de telle façon que l'autre compte plus que moi-même. Et donc la critique cite un passage, lui. La vérité, en définitive, la vérité n'est pas théorique, mais éthique. Pas déboucher sur des conduites. Ce qui est essentiel pour l'homme, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'être bon. Regardez dans la liturgie, c'est là aussi qu'on prie jamais en disant « Dieu qui a toujours raison, Père infiniment ». Donc, ce n'est pas d'avoir raison, c'est on peut nourrir l'illusion d'avoir raison tout seul contre les autres. Ou tout seul avec sa communauté, sa race, sa nation ou sa religion, contre les autres. On ne peut être bon qu'avec les autres. La volonté d'avoir raison engendre la guerre. La paix ne peut survenir que de la décision d'être bête et de dire n'importe quoi. Il y a un moment où défendre mordicus, j'ai raison et toi tu as tort, si en faisant ça, on cesse d'être bon, bien, je vais vous lire un texte d'un anonyme que j'ai trouvé micelle du dimanche, les micelles de poche du dimanche, c'est le chemin de la joie pascale. La joie de Pâques se lève sur nous comme l'aurore. Quand deux, trois femmes en deuil arrivent au petit matin devant le tombeau, le soleil ne les a pas atteints. Lumière est déjà levée. Christ a terrassé la mort, la joie envahit le monde et personne ne le sait. Vivant, Jésus est vivant. Les femmes se prennent à trembler. Elles se sauvent. La peur leur coupe l'envie de parler. Il est difficile de rencontrer la joie. C'est ce que, dans l'évangile de Marc, on dit que les femmes, elles surprennent. La joie se lève pour envahir le monde. Conquête interminable. Le clair-obscur est confortable. La joie fait peur. Le soir de Pâques, les apôtres à leur tour perdent pied. Jésus au milieu d'eux. Jésus qui parle, qui mange, qui vit. Ce qui bloque leur cœur, c'est la joie prête à les submerger. La joie les empêche de croire. Ils ont des doutes. La joie de Pâques n'est pas la joie d'une heure. Elle n'est pas la joie fugitive d'une chaleur, d'un succès, d'une étreinte. La joie de Pâques n'est pas une petite joie, ni même une grande joie provisoire. Elle est immense, infinie, sans retour. Elle est la joie. Qui s'est levée, victorieuse de la mort, de la haine. La vie vient à notre rencontre. La vie toute puissante. La vie qui nous aime et qui nous appelle. Ô vie, si je n'avais pas peur de toi, si je n'avais pas peur que tu m'arraches mes discrètes griffes de haine, mes germes de mort, alors j'aurais ta joie. J'aurais la joie pascale. La joie de Pâques efface les ténèbres. Elle ne s'accommode d'aucune ombre, ni du mensonge, ni de la tristesse, ni du regret. Elle est envahissante. La joie de Pâques ne s'aveugle pas. Elle sait le prix de l'amour, la venue. Elle sait aussi ce que coûte la liberté. Guerre de la chair et de l'esprit. Mets tes doigts dans mes mains trouées, mets ta main dans mon côté et crois en ma vie. Crois à ta joie. Ô lumière, débusque les tristes ombres que je cultive et je rayonnerai ta joie. Joie de Pâques, il faut y croire. Il faut basculer en elle. Partager sans regret son dernier pain, couper paisiblement la dernière amarre et quand plus rien ne nous reste, offrir à qui le veut notre sourire. Nous est-il jamais demandé de croire à autre chose qu'à la joie? Est-il d'autres péchés que des fautes contre la joie? Seigneur, triomphe de nos peurs. Seigneur, fais taire nos chansons tristes. Seigneur, mets ta lumière dans nos yeux. Seigneur, fortifie-nous dans l'espérance. Un jour, tu auras raison de nous. Un jour, nous connaîtrons ta joie, la plénitude de ta joie. Je vous ai mis aussi un autre texte, qui est un texte d'Éloi Leclerc, dans ce petit livre qui s'appelle « Sagesse d'un pauvre », qui est, c'est un trait sur la pureté du cœur.